Bien, reprenons notre visite de Bérénice au cours du Haut Empire. Nous avons vu tout à l'heure l'emplacement des puits tout autour de la ville, car effectivement, l'approvisionnement en eau était essentiel. Nous avons vu que, comme partout ailleurs dans le désert, c'est l'armée qui s'en occupe, c'est l'armée qui creuse les puits et qui contrôle la distribution de l'eau. Et à ce propos, il faut indiquer que ces puits sont très grands, même si probablement ils ne donnaient pas assez d'eau, ce qui était la raison de leur déplacement. Le grand puits du Wadi Kalalat, par exemple, mesure 32 mètres de diamètre, et donc ça suppose une énergie et un travail très important pour les creuser. Il faut aussi remarquer que bien que le nivelé entre le Wadi Kalalat et le port, qui fait à peu près 78 mètres de différence, bien que ce déniveleur ait permis d'aménager un aqueduc, rien de tel n'a été réalisé et l'eau était transportée par des outres portées par des chameaux et des ânes. Ce qui montre que dans une ville qui a connu quand même ce développement assez important, on n'a pas jugé nécessaire de faire un aqueduc. Or, nous verrons dans 15 jours que dans le cas de Clisma, on a fait un aqueduc. Donc je crois qu'il y a une différence quand même qui est très importante et nous verrons que le rôle de Clisma, notamment au Haut Empire, a été certainement sous-estimé pour tout un tas de raisons qu'il nous appartiendra d'examiner. Mais remarquons déjà que malgré les investissements de l'armée dans les puits, on n'a pas fait ce type d'aqueduc. L'eau était aussi nécessaire pour alimenter des thermes. Les fouilles américaines n'en ont pas trouvé. Je dirais, n'en ont pas encore trouvé, car il me paraît évident que Bérénice possédait un ou plusieurs établissements thermaux, tant le besoin culturel était universellement partagé par la population de l'Empire et rendait ces établissements nécessaires, notamment aux militaires. D'ailleurs, quelques briques cuites trouvées éparses dans la ville et des flacons à huile parfumée sont probablement les témoins indirects de leur existence. À côté de l'eau, il fallait du vin. Une part notable du vin qui parvenait à Bérénice était exportée. Mais la population locale en consommait aussi, notamment les militaires qui avaient un fort pouvoir d'achat par rapport au reste de la population. Il est évident que les amphores vinaires retrouvées sur place témoignent du vin qui a été importé et bu localement. Et pour une part aussi, évidemment, d'amphores qui ont été remployées pour d'autres usages. Il est difficile d'entrer dans le détail de cette consommation du vin et surtout de son évolution, car les comptages globaux de l'ensemble du site n'ont pas été encore publiés, la fouille est encore en cours, et on ne dispose que de comptages très partiels dans quelques niveaux, notamment ceux d'une tranchée qui avait été fouillée en 1995-97, qui est la tranchée 5 de Bérénice, où on a des comptages pour des dépôts qui sont datés de l'époque augustéenne. Ce qui est intéressant, c'est que ces comptages montrent qu'il y a une écrasante majorité d'amphores égyptiennes 3 produites dans la région de Coptos, et parmi les importations de ce début du 1er siècle, on trouve surtout des amphores italiques Dressel de 4, principalement de Campanie. Par la suite, apparaissent des amphores de Crète, de Cilicie, d'Éphèse, et puis de Chypre, de Gaule, et vers le milieu du 3e siècle, de Maurétanie césarienne. Le tableau est donc le même que celui offert par les forts de la route entre Bérénice et Coptos, et il diffère totalement de celui des sites d'Arabie ou d'Inde, où les amphores égyptiennes 3 sont quasiment absentes, montrant que le vin de Coptos n'était probablement pas assez réputé pour être exporté. Ces données sont à mettre en relation avec celles des livraisons pour l'avitaillement des bateaux, publiées notamment par Bagnall et Verhoeckt dans les documents Document from Bernike, paru à Bruxelles en 2000 et en 2005, et d'autre part avec des groupes d'amphores et de marsipias de vin en plus grande quantité. On remarque que les quantités de vin qui passent la douane de Bérénice, donc qui sont attestées dans ces ostracas publiés par Bagnal et Verhoek, ces quantités de vin sont peu importantes. Le maximum qui est attesté est 48 amphores. Cela correspond donc plutôt à un trafic d'approvisionnement de Bérénice, éventuellement de l'équipage des navires, mais certainement pas à un grand commerce, celui qui payait la tétartée à Alexandrie sur des quantités beaucoup plus importantes. Dans le même sens va donc la mention des marsipias, qui sont des outres qui sont totalement inadaptées au transport par bateau. Donc, ce que nous montre l'archéologie de Bérénice, c'est principalement l'approvisionnement de la ville et presque rien sur le grand commerce avec l'Inde. Au titre de l'alimentation, il faut distinguer la viande des nourritures végétales. L'alimentation carnée est révélée par les études archéozoologiques et elle est particulièrement intéressante. La consommation de poissons et de fruits de mer est une constante, de nature écologique bien entendu, puisque nous sommes au bord de la mer. Mais celle de la viande montre une évolution significative. Sous les Ptolémées, les habitants mangeaient presque exclusivement du mouton, que l'on présume d'origine locale. Durant le Haut Empire, au contraire, on voit se développer la consommation de porc, mais aussi de bœufs, de poulets et de poissons du Nil, et même d'escargots, qui est un produit de luxe qui est importé certainement du nord de la Méditerranée. Bien entendu, le chameau était aussi systématiquement dépecé lorsqu'il venait à mourir. Il paraît clair que cette diversification que l'on constate aussi dans l'effort de la route que nous avons fouillée est directement suscitée par la demande militaire. Bien que le camp militaire n'ait pas été localisé, comme je vous l'ai dit, il ne fait pas de doute qu'il y avait une forte présence de soldats à Bérénice. Outre ces viandes appréciées, on trouve la consommation de quelques chevaux et d'ânes, de chameaux bien entendu, et au moins d'une gazelle. Alors j'anticipe un peu sur la suite pour dire que l'éventail de l'offre carnée, de l'offre de viande, se ferme à nouveau durant l'Antiquité tardive, où la consommation de moutons, de chèvres et de chameaux redevient totalement prépondérante, allant de pair avec la présence régulière de nombreux nomades, éleveurs de ces animaux, qui sont installés dans la ville ou aux abords de la ville. Mais sur ce point, je vous renvoie aux remarques de Steve Stidebottom dans un article intitulé « Late Roman Berenike » paru dans le Journal of American Research in Egypt en 2002, surtout à la page 234. Au titre des aliments végétaux, il faut d'abord citer le blé. Il est mentionné dans les ostracapétries, car l'entreprise de chameliers dirigée par Nicanor en transportait. Il est aussi répertorié comme passant la douane, dans les ostracas de la douane, et dans le périple de la mer Érythrée, qui indique donc que le blé était aussi exporté. On trouvait aussi de l'orge, utilisé comme fourrage pour les animaux, et on le retrouve notamment sous forme de graines dans les crottes de chameaux. Le riz a été trouvé en petite quantité. Il doit provenir d'Inde, mais il a pu aussi être cultivé au Moyen-Orient. Il est possible que sa consommation ait surtout été le fait d'Indiens, de marins et de commerçants séjournant pour plusieurs mois à Bérénice entre deux armements. En effet, nous n'avons pas du tout trouvé, en tout cas, une seule graine dans un des forts, ce qui montre que c'est une consommation qui est probablement liée à des besoins ethniques. Comme Charlène Bouchot l'a détaillé l'année dernière, le tamisage des sédiments réalisés par l'équipe américaine a permis de retrouver toutes sortes de légumineuses produites dans la vallée du Nil, des lentilles, des pois chiches, du lupin, des vesses, des fèves, et aussi des graines et des noyaux de fruits tels que amandes, noix, noisettes, abricots, pêches, prunes, figues, raisins, grenades, pastèques, dattes et pignons. Des légumes verts tels que des choux et des salades devaient être cultivés sur place, comme dans les forts, là où il y avait suffisamment d'eau, par exemple celui de Compassie. Il fallait aussi importer de l'huile. L'huile d'olive est mentionnée comme passant la douane, en général dans des petits conteneurs qui sont appelés hémicadia, et un ostracone mentionne 7 italica d'huile remployée, c'est-à-dire qu'on a utilisé des amphores italiques, certainement de type Dressel de 4, pour transporter de l'huile pour l'approvisionnement de Bérénice. Donc il ne faut probablement pas attribuer la totalité des amphores à vin au commerce d'approvisionnement du vin de Bérénice, puisqu'évidemment il y avait une part non négligeable de remploi. L'huile qui passait par Bérénice semble avoir été destinée aussi aux Yavanas, c'est-à-dire à ces étrangers d'origine occidentale, qui résidaient en Arabie ou en Inde, mais elle était certainement aussi consommée sur place, voire sur les bateaux. En effet, le remploi d'amphores au vinaigre ne s'inscrit pas dans le grand commerce, mais plutôt dans celui de détail. Outre ces denrées de base, les couches de cette époque, livres du poivre du Kerala, qu'on trouve dans presque tous les échantillons, ce qui prouve à la fois son abondance et son relatif bon marché. D'autres épices, telles que la coriandre, le cumin, sont aussi présentes. La prospérité de Bérénice connut un net déclin à une époque qu'il faut tenter de préciser. Selon Steve Sidebottom, la ville aurait connu une crise au IIe siècle, car il constate, après le début du IIe siècle de notre ère, une chute de la quantité de textes, des monnaies et des poteries, et car il a décelé très peu d'activités de construction à la fin du IIe et au IIIe siècle, ainsi que dans la première moitié du IVe siècle. Il dit « Bérénice must have suffered a steep decline in activity and a concomitant drop in the size of its population at this time. Political unrest and open rebellion along the Nile, including the attack of the Nile cities of Coptos and Ptolemais by the nomadic Lemmes, an increase in banditry and Bedouin activities in the eastern desert, which is evident from the excavation along the Myosamos Nile Road, and a decline in the international trade passing through Bérénice, may all have played a role in this decline in the fortune of the port. À la page suivante, il écrit que plusieurs sources indiquent qu'une peste virulente, probablement la petite vérole, a atteint l'Égypte et le désert oriental sous le règne de Lysus Verus et a duré et a ravagé le secteur pendant plusieurs décennies. Et elle aurait ainsi décimé la population dans plusieurs places et plusieurs villes de l'Égypte et de l'Empire pris dans la totalité. Ceci, selon lui, aurait pu causer un dramatic downturn, donc un abaissement dramatique de l'activité à Bérénice. En fait, l'auteur de la population oscille entre une crise dans la seconde moitié du IIe siècle induite par les ravages de la peste antonine et une crise dans le IIIe siècle, surtout liée à l'insécurité due aux nomades, ce qui introduit un certain télescopage chronologique. D'une part, il dit que les textes déclinent dès le début du IIe siècle et d'autre part, il évoque la prise de Coptos en 280, soit plus d'un siècle et demi d'écart. Après avoir lu l'ensemble des rapports de fouilles, en tenant compte des enseignements que la fouille des forts de la route m'a donné, je pense que s'il y a eu un moment de crise démographique dû à la peste antonine, probablement la variole, après 166, cette crise a été de courte durée, car les forts montrent une pleine activité dans le dernier quart du IIe siècle et durant toute la première moitié du IIIe siècle au moins. Sur ce point précis, Roger Bagnall et Bruce Frears, page 174 de leur ouvrage « The Demography of Roman Egypt » paru à Cambridge en 1994, considèrent qu'on ne doit pas exagérer les conséquences de la peste antonine, bien que la saignée de population ait été sévère. Il estime à 10% sur l'ensemble de l'Empire et peut-être autour de 20% dans les grandes cités. En tout cas, Bérénice, je crois, s'en est relevé assez vite, car la demande était stimulée par, évidemment, les classes riches de l'Empire et qui continuent de consommer les produits du commerce orientaux en grande quantité dans la première moitié du IIIe siècle. En revanche, les troubles des années 250-280 ont marqué, je crois, un coup d'arrêt à Bérénice. L'équipe américaine n'a pas mis au jour de maisons ou de monuments occupés durant le dernier tiers du IIIe siècle et la première moitié du IVe siècle. Cela ne signifie pas pour autant que Bérénice ait alors été totalement abandonnée. De futures fouilles mettront peut-être au jour des niveaux de cette période. Mais le site est désormais assez bien connu pour qu'on puisse affirmer que Bérénice connaît alors une forte dépression. Celle-ci pourrait résulter de la combinaison de plusieurs causes. D'une part, les troubles sécuritaires, avec les ravages causés par les nomades du désert, dont nous avons vu le rôle grandissant à propos du fort de Xéron, et dans le troisième quart du IIIe siècle après Jésus-Christ. Et d'autre part, le retrait de l'armée, qui a eu une double conséquence, la sécurité minimale n'était plus assurée, et l'approvisionnement en eau non plus. Enfin, une autre cause pourrait être d'ordre démographique à nouveau, due à la peste dite de Cyprien, qui sévit de 250 à 271. Les récentes fouilles dans le tombeau de Haroa et d'Akhimenru à Thèbes, c'est-à-dire à Louxor, où les fouilles italiennes ont récemment trouvé des charniers de cette époque, montrent son impact en Haute-Égypte. La combinaison de ces facteurs ne pouvait donc que provoquer un abandon au moins partiel et probablement assez extensif du port qui ne vivait que grâce à l'approvisionnement depuis la vallée. Alors, qu'est-ce qui se passe après ? Saïd Motam a consacré, comme je vous l'ai dit, en 2002, un article à Bérénice durant l'Antiquité tardive dans donc le Journal of the American Research Center in Egypt. Et il a fait très longuement allusion à cette phase dans son ouvrage de synthèse « Sur la route des épices » paru en 2011. Enfin, les fouilles de ces dernières années, avec la mise au jour d'un sanctuaire tardif très bien conservé, ont apporté beaucoup de nouveautés sur Bérénice au cours du IVe, Ve et début du VIe siècle. Après la forte dépression démographique de la fin du IIIe siècle dont nous venons de parler, on assiste, au IVe siècle, à une renaissance de Bérénice qui est marquée par la construction de nombreuses maisons, de sanctuaires et d'une église chrétienne. Dans son ouvrage « Recherche sur l'activité des Méditerranéens aux confins de l'Afrique », Jean Desange, page 353 et suivante, a souligné dès 1978 que les Romains s'intéressent de près à nouveau à la mer Rouge à partir des années 310-320 après Jésus-Christ. Et je me demande si le renouveau de Bérénice n'est pas quelque peu antérieur au milieu du IVe siècle, période que retient Steve Steinbottom. Ce renouveau pourrait débuter dans la foulée de la reprise en main de la sécurité manifestée par la construction du fort d'Aboushar en 309-311, fort qui est clairement destiné à protéger le commerce. En effet, nous ne disposons pour la ville de Bérénice que de datations fondées sur la céramique, dont la marge d'erreur est d'environ un quart de siècle. C'est un point sur lequel je pense que la poursuite des recherches et évidemment la publication de cette céramique permettra probablement d'évoluer. Mais j'aurais tendance à, disons, antidater quelque peu le renouveau de Bérénice, plutôt dans la décennie 310-320 que vers 350 après Jésus-Christ. Même si la relance de l'activité commerciale est le moteur de ce renouveau, l'environnement politique et religieux ont changé. Malgré un effort militaire sur les côtes de l'Égypte, Rome ne semble plus dominer totalement la mer Rouge comme auparavant. Et elle doit désormais composer avec des forces émergentes, dont le royaume d'Aksum, qui devient un acteur essentiel dans la police des mers et dans le commerce. À Bérénice, on ne trouve pas de traces de l'armée au IVe siècle, quoique sa présence soit probable. Les forts autour de la ville, et nous les avons vus tout à l'heure, sont désormais abandonnés. Et il semble que les puits soient taris, car l'eau paraît désormais être apportée depuis le puits de Chinchef, qui est situé à 21 km au sud de Bérénice. Le puits de Chinchef est ici Et donc, l'abandon de ces forts, probablement lié au tarissement des puits, a nécessité d'à nouveau chercher de l'eau, certainement assez loin. Le site de Chenchev a fait l'objet de prospections et de fouilles approfondies de la part de l'équipe de Steve Stibotham et ne ressemble en rien au Presidia du Haut Empire. C'est un véritable village comportant plusieurs centaines de maisons occupées au 5e et 6e siècle. Maisons qui sont entourées de tombes qui montrent une population permanente et sédentaire. Les maisons y sont bien construites et le niveau de vie semble relativement élevé. On y a trouvé du poivre, du sorgho, du teck, des perles, des importations d'Arabie et même un saphir de Trapobane, ainsi que des noix, des amandes, des pignons venus de la Méditerranée. Donc les gens qui habitent dans ce village sont en rapport d'une façon ou d'une autre avec le grand commerce, ont les moyens de se construire de belles maisons, dont nous avons quelques exemples, maisons qui sont bien construites avec plusieurs pièces, des niches, et un appareil de mur qui est très caractéristique de cette période et un appareil qu'on retrouve dans beaucoup de constructions du désert oriental à partir de la fin du 3e et du 4e siècle après Jésus-Christ. Même si le rôle principal du village de Chenchev fut de contrôler le point d'eau, il ne semble pas que c'était le fait de l'armée. Et de toute façon, ça n'expliquerait pas l'anormal développement de cette agglomération dans une zone où il n'y a pas de port et où les ressources naturelles sont très rares. Mais revenons à Bérénice. L'urbanisme de Bérénice, à l'époque tardive, est assez bien connu, car l'emplacement des maisons et des rues, comme nous l'avons vu depuis le départ, se devine bien sous le sable et les fouilles rencontrent d'abord ces niveaux qui sont bien conservés pour cette époque. L'ensemblement du port sud-ouest, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, a provoqué progressivement le déplacement de l'assiette de la ville en suivant la progression du rivage et en allant vers l'est. Pour gagner du terrain, on a apporté un remblai destiné à surélever le sol de l'ancienne plage dans la partie est afin de pouvoir construire des maisons, c'est-à-dire dans toute cette partie qui est ici, zone qui n'était pas occupée au Haut-Empire et qui est remblayée pour pouvoir construire des maisons à partir du IVe siècle. Ce remblai très important contient beaucoup de mobilier du Haut-Empire et surtout, bien entendu, des amphores. Dans la partie ouest de la ville, au contraire, c'est-à-dire dans cette partie-là, les maisons sont construites sur les maisons antérieures qui, toutefois, ont été rasées et dont les pierres sont souvent récupérées. Les maisons de l'Antiquité tardive s'alignent à peu près sur le même plan de rue tout en le déformant progressivement. Les règles d'urbanisme, en effet, ne sont pas strictes. Certaines maisons débordent sur la rue, mais leur respect global indique toutefois qu'une autorité et une certaine régulation président à la reconstruction de la ville. Deux grandes rues sont alors connues, l'axe principal est-ouest que vous voyez ici, dégagé entre le temple de Sérapis et l'église, l'église qui est ici et le temple de Sérapis qui est là, et une rue nord-sud, ici, enfin plusieurs rues nord-sud, dont une qui aboutit à un temple qui est ici et une autre qui aboutit à un autre temple qui est ici, au temple qui est appelé le temple nord-est, et qui se termine, donc l'une de ces rues se termine par une place au croisement, une place qui mesurait à peu près 20 mètres par 40. D'autres rues sont parallèles et montrent donc ce plan d'amis. Les murs des maisons sont construits différemment de la période précédente. Ils sont désormais construits en fragments de coraux et parfois avec de gros coquillages liés aux mortiers de boue et associés avec des espèces de harpes faites de blocs de remploi récupérés dans les maisons du Haut-Empire. Les marches, les seuils et les pieds droits sont faits de blocs, aussi récupérés dans les maisons du Haut-Empire, et dans certaines maisons, on a même trouvé des accumulations de blocs, et de chapiteaux et de colonnes qui proviennent du démantèlement déconstruction du début de l'Empire, démantèlement peut-être aussi d'un temple de Zeus qui aurait entraîné la récupération de la dédicace faite par Philothéra dont nous avons parlé tout à l'heure. Les toits sont alors faits de poutres de palmier recouverts de branches et ensuite recouverts d'argile. Les maisons ont des niches dans les murs et sont parfois doublées de planches. Vous voyez ici un exemple de ces maisons avec une cour ici, un escalier qui permet de monter à l'étage et ces niches dans la partie basse. Ces maisons donc comportent souvent un étage où devait se trouver l'habitation, alors que le rez-de-chaussée semble être réservé à des activités commerciales. En effet, les fouilleurs ont trouvé en plusieurs endroits des balances et des poids de petite dimension qui indiquent qu'on pesait des marchandises en petite quantité, donc probablement des pierres précieuses et des aromates. Cette activité commerciale directe montre une différence majeure avec le Haut Empire dans la mesure où les marchandises à l'époque du Haut Empire ne faisaient que transiter par Bérénice pour aller vers la douane d'Alexandrie à travers celle de Coptos et vers les entrepôts de la vallée. Au contraire, les commerçants de l'Antiquité tardive semblent donc faire un commerce de détail et ne sont plus seulement des transitaires s'occupant de lots de marchandises, du fait que des lots de marchandises puissent parvenir à leur destinataire qui était dans la vallée. Donc voici quelques exemples de ces maisons qui sont relativement bien connues. Ici, une de ces grandes maisons avec cour intérieure, les escaliers qui sont faits de blocs de remploi et la restitution qu'en donne Steve Sidebottom, donc avec toute une partie basse utilisée comme cour de service et destinée au commerce, où on trouve parfois des amphores, et la partie haute qui était certainement utilisée pour l'habitation permanente de ces marchands. Et sur cette diapositive, vous voyez les restes de balances et de poids qui ont été trouvés dans plusieurs de ces cours et qui montrent donc toute cette activité de commerce de détail, certainement de matière précieuse, puisqu'on a affaire à des petits poids, probablement notamment d'épices, d'aromates, etc. Outre les marchands de matières précieuses et légères, on trouvait aussi des négociants en matières pondéreuses, telles que le vin. Dans la partie sud-est de la ville, Steve Sidebottom a mis au jour un entrepôt qui est daté des environs de 400 après Jésus-Christ et qui contenait des amphores d'Aqaba intactes et vides en attente de recyclage. Le vin que contenait... Alors, il y a débat sur la nature de ces amphores, mais personnellement, je crois qu'il servait au commerce du vin. Et le vin qu'il contenait, qui vient donc de la région d'Aïla, Aqaba aujourd'hui, est alors largement commercialisé le long des côtes de la mer Rouge et de l'Arabie. Et je vous renvoie à l'ouvrage de Roberta Tomber, Indian Roman Trade from Pots to Pepper, paru en 2008, où Roberta montre qu'il y a une grande uniformité de distribution de ces amphores d'Aqaba depuis Aboushar et Bérénice jusqu'à Adoulis, qui est le port d'Aksum au niveau de l'Éthiopie, à Cana et à Chabwa en Arabie, et y compris jusqu'en Inde, où ces amphores d'Aqaba sont présentes sur plusieurs sites. Outre les maisons, les sanctuaires sont relativement bien connus. Le sanctuaire des palmyréniens semble toujours utilisé au IVe siècle. Toutefois, les fouilleurs n'ont pas pu déterminer quand la statue de Yaribol a été enlevée ou détruite. En tout cas, l'autre statue de bronze, celle qui représente peut-être Isis, a été intentionnellement mutilée en la cassant en partie haute et en perçant la feuille de bronze avec un outil en fer. Un tel acharnement, dont on a trouvé des témoignages comparables au Ve siècle dans les sanctuaires des forts de Dios et de Didymoi, est probablement attribuable aux chrétiens. Le temple de Sérapis semble lui aussi fréquenté à l'époque tardive. Dans la cour nord, où nous avons vu qu'il y a ce niveau du Haut Empire avec les jarres indiennes remplies de poivre. Dans la cour nord, donc, au-dessus de ces niveaux, des activités artisanales ont eu lieu à cette époque, mais on n'a pas pu déterminer si elles sont en liaison avec le culte. Par contre, un sanctuaire païen a été construit et utilisé notamment durant l'Antiquité tardive, seulement l'Antiquité tardive, pardon, et c'est celui que l'équipe américaine appelle « the Northern Shrine » parce qu'il est situé dans la partie nord de la ville, au bout de la rue nord-sud. Cet ensemble est situé à 80 mètres au nord du temple de Sérapis, pardon, et à cet endroit-là, le culte avait lieu dans un espace semi-enterré, probablement couvert par une voûte. Les murs sont en blocs de coraux et incluent des poutres de teck et probablement d'un bateau. À l'intérieur, les fouilleurs ont trouvé des sièges en pierre parallèles aux murs nord et sud. Un de ces sièges réutilisait un bas-relief cassé montrant un personnage debout sous un dé et un autre dessous, ce serait un prêtre devant une divinité. Le lieu a livré des lampes à huile, des fonds d'amphore utilisés pour faire du feu ou brûler des parfums, un autel cylindrique avec des traces de feu et quatre tables à offrandes rectangulaires représentant des piscines de temple que vous voyez ici. Un œuf d'autruche peint et une petite statuette en bronze complètent le mobilier qui a été trouvé. Ce sanctuaire pourrait être destiné à un culte à mystère, mais on ne sait de quelle divinité, faute d'éléments probants. Quoi qu'il en soit, il a été utilisé jusqu'à la fin de l'occupation de Bérénice, ce qui veut dire que malgré le décret de fermeture des temples de 391, des temples païens de 391 pris par Théodose, malgré le voisinage des chrétiens qui ont leur église à quelques pas, il s'est instauré une forme de cohabitation entre chrétiens et païens tout au long du 5e siècle. Un autre temple, moins bien connu, appelé Building F, est entouré d'un mur de Téménos ouvrant au sud-est, mais là encore, on ne sait rien de la divinité. En revanche, le sanctuaire implanté sur une petite éminence qui, à l'époque ptolémaïque, devait être une île, comme nous l'avons vu, et qui était située à l'entrée du port, a fait l'objet de fouilles complètes ces dernières années. Il est situé, comme nous l'avons vu, tout à côté du sanctuaire en grand appareil, dont nous avons vu plus haut qu'il n'était pas bien daté, mais pourrait être ptolémaïque et certainement utilisé au cours du Haut Empire. Il est possible que le nouveau sanctuaire ait pris la suite du précédent. Il est assuré que, dans la seconde moitié du IVe siècle, les deux édifices ont fonctionné ensemble, puisque l'effondrement complet de l'un des murs de l'édifice ancien grand appareil repose sur des niveaux contemporains du temple tardif. Donc une forme de continuité est vraisemblable. Les murs du temple tardif sont là aussi bâtis en rochers de corail avec des remplois de blocs de gypse. Par une seule porte, on pénètre dans une longue salle bordée de deux rangées de sièges de part et d'autre d'un espace central, d'un long couloir central. Les banquettes étaient recouvertes de tamaris sur lesquelles on a retrouvé des os de jeunes moutons et de chèvres qui sont probablement des restes de repas rituels. La datation est assurée par la céramique trouvée dans les niveaux de fréquentation à l'intérieur. Elle montre que le temple a eu une activité soutenue entre la fin du IVe siècle et le début du VIe siècle. Le dégagement minutieux à l'intérieur a livré un très abondant mobilier rituel comprenant deux autels rectangulaires, une table à offrande en forme de piscine, un brûle-parfum en céramique, une petite jarre remplie de décorations en argent, une fiale de bronze, 50 coquilles de coris utilisées pour la divination. Alors vous voyez ici une vue de l'entrée du temple avec les banquettes qui permettaient de s'asseoir à l'entrée et les deux autels à cornes qui ont été trouvés devant une lampe à huile. Et donc, qui montre cette activité rituelle. Outre ces témoins, le tamisage des sédiments montre l'existence d'offrandes périssables telles que des fleurs de lotus, du blé, des figues, de l'orge, et du bois de cèdre utilisé évidemment pour fumigation et pour son odeur. Parmi les objets rituels, on note donc des œufs d'autruche peints, dont un qui porte un pentagramme et un fond de lampe avec un pentagramme. Or, le pentagramme est entre autres le symbole de l'étoile du chien qui marque le début de la nouvelle année égyptienne qui est associée à Isis. La découverte en remploi d'une inscription dédiée à Isis, à Tyché et peut-être à Sérapis, bien que datée du règne de Trajan datée de 98 de notre ère, est un autre indice qu'il y avait dans ce secteur idéalement placé un sanctuaire d'Isis protectrice des navigateurs. Il est donc vraisemblable qu'au moins dans la première phase, le temple ait été consacré à Isis. Une deuxième phase succède, dont vous voyez ici une photo qui est beaucoup moins organisée, mais dans laquelle on a trouvé aussi beaucoup de témoins rituels, et notamment une pierre, un béthyl, qui semble avoir servi à des cérémonies, on tournait autour, semble-t-il. Et on a trouvé associé quelques autres amulettes et statuettes, dont une amulette de Bès, qui n'est probablement pas très significative, mais plus significative de la deuxième phase, est cette tête de taureau, qui est originaire d'Arabie du Sud et qui devait faire partie d'une statue dont le reste n'a pas été retrouvé, qui était peut-être en bois, le reste était peut-être en bois, et cette partie était fixée en partie. Tout à l'est du site se trouve le plus grand complexe cultuel de la ville tardive, qui est l'église chrétienne, qui a été fouillée entre 1996 et 2001. Donc, nous étions ici dans le temple tardif, peut-être d'Isis, et ensuite d'une divinité arabe, enfin originaire d'Arabie du Sud, et nous passons donc dans la partie totalement orientale de la ville, où l'équipe de Saïd Botam a découvert cette église chrétienne. On y accédait depuis le nord par une entrée latérale comportant une volée de marches. La nef centrale est séparée des deux collatéraux par des fils de pilastres ou de colonnes, et l'autel se trouvait à l'est, à cet endroit-là. Depuis cette pièce, on pénétrait aussi dans une pièce située à l'ouest qui est entourée de banquettes que vous voyez ici, et mieux sur cette photo-là, dans laquelle ont été trouvés des symboles chrétiens, notamment une lampe qui porte une inscription « Jésus, pardonne-moi » écrite en copte, et un fragment de lampe chrétienne en bronze dont vous avez la photo ici. Saïd Botam pense que cette pièce, donc entourée de banquettes, était destinée à l'enseignement des novices avant leur admission dans l'ecclésia, c'est-à-dire au sein de la communauté chrétienne. Sur le côté est de l'église, donc là nous étions à l'ouest, ici dans la salle à banquettes, sur le côté est se trouvait une cour en partie couverte qui abritait des foyers. Dans ces cuisines, on a trouvé de nombreuses arêtes de poissons et un peu à garum ou à salaison de poissons. On y faisait donc une cuisine, peut-être rituelle, à base de poissons. Tout le côté nord de l'église est occupé par des habitations. Donc, vous voyez l'église avec la reconstruction, la partie qui était peut-être destinée à l'enseignement ici. Et tout le côté nord est occupé par des habitations qui semblent être les logements des desservants ou d'une communauté de cénobites qui avait en charge l'entretien des lieux et du culte. Le cimetière de l'époque tardive est situé au nord-ouest de la ville, près de la route qui reliait la ville au Nil. Donc, dans ce secteur-là que vous ai indiqué en rouge. On y rencontre deux types de tombes. D'une part, celles de personnages aisés, qui sont formés d'un caisson limité par des murs de blocs de coraux contenant des cercueils de planches de bois cloués et enserrés dans des mausolées. Malheureusement, toutes ces tombes ont été violées et il est difficile de les dater précisément. Et d'autre part, il existe des tombes en pleine terre dont deux ont pu être fouillées, l'une appartenant à un enfant de 2 ans et une autre à un adolescent, mais toutes les deux pratiquement sans mobilier, sauf un bracelet de perles. Outre ces tombes des habitants de Bérénice, il existe autour de la ville de nombreux et vastes champs de tombes surmontés de tumulus en pierre. Donc, que vous voyez sur cette photo, là, vous voyez la Bérénice est ici et ce sont tous ces ensembles qui sont ici. 640 de ces tombes ont été repérées à l'ouest et au sud-ouest de la cité, dans les collines. D'un diamètre d'1,50 m environ, ces tombes comportent une excavation rectangulaire au centre entourée de dalles. Elles sont ordinairement placées sur des cols ou des hauteurs dominant les wadis et malheureusement toutes ont été pillées. Mais les tessons de céramique trouvés alentour montrent qu'elles sont datables des 4e et 5e siècles. Des groupes de tombes identiques ont été découvertes à Itam Rayam et à Chenchef, et en janvier de cette année, j'en ai moi-même trouvé plusieurs groupes autour des fouilles que nous conduisons à Bir Samut. De par leur position et leur mode de construction, ces tombes sont reliées aux populations nomades, d'autant plus qu'elles sont parfois associées à des vases modelés de type Eastern Desert Ware. La question suivante se pose immédiatement. Pourquoi voit-on apparaître ces tombes en grand nombre à partir des 3e et 4e siècles, alors qu'il n'existe pas de cimetière équivalent durant le Haut Empire? Selon Steve Stibotam, cette brusque apparition serait la manifestation d'un changement de population de Bérénice durant l'Antiquité tardive. Il lui semble que la ville est alors occupée surtout par des marchands païens et chrétiens et que, dès le 5e siècle, la place des nomades du désert augmente sensiblement. Les tombes sous tumulus autour de la ville pourraient bien indiquer que les défunts étaient des nomades qui avaient vécu à Bérénice ou autour, pratiquant le commerce, mais qui voulaient être enterrés selon leur tradition. L'absence de mobilier funéraire dans les tombes le long de la route reflète surtout une différence de religion. Ce seraient des tombes chrétiennes. Cette reconstitution est plausible, mais demande à être étayée. On n'a aucune preuve que les tombes du cimetière nord-ouest de la ville, que je vous ai montré tout à l'heure, étaient celles de chrétiens. Comme elles ont été pillées, on ne connaît ni leur date précise ni leur appartenance religieuse. Quant aux nombreuses tombes autour de Bérénice, elles manifestent certainement une présence accrue des nomades et, vu leur multiplication de nombreux points du désert oriental, certainement un essor démographique important qui expliquerait à la fois leur pression sur l'écosystème et sur l'administration impériale et finalement leur succès militaire marqué par la prise de Coptos et de Phoenicon et l'occupation et l'exploitation du Mons Maragdus, où l'importance des villages de Nougrous et de Sikait montre leur nombre et leur présence aux portes même de Bérénice. Je ne suis donc pas certain que ces tombes que nous voyons là soient celles de marchands sédentarisés comme établis à Bérénice, du moins pour la plupart. Elles pourraient être celles de populations locales vivant en symbiose avec le groupe des marchands et de marins qui habitaient à Bérénice. En symbiose, cela veut dire qu'ils devaient leur fournir des moutons et du poisson, servir de guide dans le désert, probablement de protecteurs, stipendiers, ou peut-être participer à certaines formes de commerce, sans être eux-mêmes les moteurs de ce commerce qui continue à demander des capitaux importants et des réseaux d'informateurs, d'agents et de dépendants ou de parents dans l'Empire, aussi bien que dans l'Inde et dans l'Arabie. Le fait que certains secteurs de la ville et livrer des accumulations de restes de poissons et de coquillages, tranchant avec d'autres dépotoirs, pourrait indiquer qu'il y avait des zones où résidaient des habitants ichthyophages au sens propre du terme. Il pourrait s'agir des populations du désert connues sous ce nom. Ailleurs, comme je l'ai dit, la consommation de viande repose surtout sur les moutons, les chèvres et les chameaux, montrant une prépondérance de l'approvisionnement local auprès des nomades qui élevaient ces animaux dans les wadis environnants. Que les rapports entre les divers groupes qui devaient habiter Bérénice n'aient pas toujours été pacifiques, nous en avons la preuve par la découverte de quelques squelettes mutilés, deux décapités notamment, qui ont été jetés sur le dépotoir ptolémaïque aux marges ouest du site, et un squelette dans une fosse près de l'ancienne muraille hellénistique. Il s'agit de fouilles de 2014. Selon Stibotam, le changement des pratiques funéraires indiquerait qu'une part nettement plus importante de la population se fait alors enterrer sur place et cela manifesterait un changement fondamental dans la mentalité de la population de Bérénice. Désormais, une large part des habitants considérerait que cette ville était leur patrie, c'est-à-dire l'endroit où ils vivaient et où ils choisissaient d'être enterrés, alors que sous le Haut Empire, c'est la vallée qui était leur patrie et ils ne passaient à Bérénice que des séjours pour affaires. Cette interprétation repose sur la double conviction que le cimetière nord-ouest de Bérénice est nettement plus important que les quelques tombes qui ont été fouillées et sur le fait que les 640 et quelques tombes à tumulus à l'ouest de Bérénice appartiennent à ses habitants. Mais nous avons vu que si elles correspondent à des populations nomades vivant en symbiose avec la ville, l'argument tomberait en grande partie, car la raison d'être de la ville, encore à cette époque, était le grand commerce. Et ce grand commerce est attesté à la fois par une monnaie de Rudra Sena III, un roi de l'Inde occidentale qui a été frappé en 362, par le témoignage de céramique de cette époque, par la présence de nombreuses perles fabriquées en Inde et surtout à Ceylan, et même une perle qui vient de Java ou du Vietnam, qui est représentée ici. Il est attesté aussi par la présence d'une monnaie d'Aphilas, roi d'Aksum, et de nombreuses céramiques fabriquées à Aksum qui montrent probablement la présence de commerçants aksumites dans la ville. Il faut dire un mot pour finir de la fin de l'occupation de Bérénice. Il est toujours difficile de dater précisément un abandon lorsqu'on ne dispose pas de sources écrites. Les céramiques trouvées à Bérénice couvrent tout le 5e siècle, avec notamment des importations de vases sigillés d'éclairs africaines D, que vous voyez ici, des lampes africaines, ici, des lampes de fabrication africaine, donc de l'actuelle Tunisie, des amphores Leitroman Amphora 1, etc. Selon Robert Attenberg, les dernières importations seraient datables du tout début du VIe siècle. La dernière référence dans les sources antiques se trouve dans le Martyrium Sancti Aretae, paragraphe 27-29, un texte qui rapporte que, en 524-525 de notre ère, sur demande de l'empereur Justin Ier, Timothée, évêque d'Alexandrie, ordonna aux autorités des ports de la mer Rouge de mettre des bateaux à la disposition du roi des Aksumites pour porter la guerre dans le royaume d'Imyar, coupable d'avoir mis à mort un groupe d'Arabes chrétiens à Najram et d'avoir incendié des églises en 523 de notre ère. À cette occasion, le nombre des bateaux que chaque port envoie manifeste leur importance relative. 20 bateaux furent envoyés de Xisma, 5 d'Aïla, 7 de Yotabé, 7 de l'île des îles Farasan, 9 d'Inde, ce qui à cette époque doit désigner la Corne de l'Afrique, et 2 seulement viennent de Bérénice. Un si petit nombre de bateaux pour un port qui fut l'un des plus grands ports marchands de la mer Rouge marquerait son profond déclin au début du VIe siècle. Quelles sont les causes de l'abandon? Elles sont certainement multiples et liées au contexte local et régional. D'un côté, nous avons vu le port de Bérénice s'ensabler de façon permanente depuis sa fondation, obligeant à un déplacement des installations portuaires toujours plus vers l'est. Et il faut imaginer que, comme cela se faisait fréquemment en Méditerranée, par exemple à Marseille ou à Naples, et comme nous l'avons vu qu'il y avait des églises à Myos-Hormos, le port a pu être dragué. Mais un tel dragage demandait des moyens financiers et humains concevables seulement aux époques où le commerce était prospère. Or, et c'est là que les conditions régionales entrent en compte, on assiste à un déclin de ce dernier. Ce déclin est dû à une baisse de la demande en Méditerranée, en proie aux problèmes sécuritaires et économiques que vous savez, et elle est due aussi à des troubles grandissants dans la mer Rouge, qui a dû provoquer des changements de routes maritimes et terrestres. Nous avons vu qu'il y avait eu la guerre entre Aksum, alliée aux Romains contre Imyar, le royaume arabe. Les Aksumites, d'ailleurs, semblent avoir pris, comme je vous l'ai dit, une place prépondérante dans le commerce à cette époque, provoquant l'essor d'Adulis, le port du commerce du royaume d'Aksum, et probablement le déclin de Bérénice. Enfin, la peste bubonique, qui se répandit depuis l'Afrique ou l'Arabie, ou peut-être l'Inde, dans la Méditerranée en passant par la mer Rouge, a dû signer la mort de certains de ces établissements situés le long de la mer Rouge, car la peste bubonique est signalée à Péluse en 541, à Constantinople en 542, et à Marib, en Arabie, en 543. Il faut donc s'attendre à ce qu'un port qui était déjà en déclin au début du VIe siècle ait été totalement abandonné à cette occasion. En revanche, nous verrons dans le prochain cours que c'est un moment où Ayla, où Yotabé et où Clisma connaissent un certain essor, malgré leur position défavorable du point de vue du régime des vents. Et nous essaierons alors de comprendre pourquoi. Merci.